Killed by App.
Et on reprend Killed by App, donc sur le thème Mini.
Rick et Morty. Rick et Morty, je n'en démords pas. Sur l'extrait qu'on a écouté avant la chanson, il y a quand même un twist assez génial. Donc je répète, il y avait un mini monde contenu dans la batterie électrique de Rick. Mais sauf qu'en fait, en allant visiter ce monde d'esclaves qui travaillent pour alimenter la batterie, il découvre un autre savant fou qui lui-même a construit une batterie avec dedans un autre mini monde et ainsi de suite à l'infini. Ce qui me fait rebondir sur un truc dont on n'a quand même pas parlé, qui est hyper important côté miniaturisation, la loi de Moore.
Oui, bah, les mondes qui s'enchaînent du mini, peut-être qu'ils tourne vers le nano, toujours plus petit. Et donc la loi de Moore, c'est intéressant. Peut-être qu'elle prend fin bientôt. Alors je rappelle ce que c'est. La loi de Moore, en tout cas, c'est tous les 2 ans, le nombre de transistors sur une surface donnée est censé doubler. Mais le problème, c'est qu'on arrive peut-être à une limite physique qui sera atteinte, paraît-il, vers 2021. Xavier, ne m'interromps pas si j'ai des bêtises.
Mais je crois qu'en fait, on l'a carrément déjà faite.
Et que donc, on ne peut plus réduire la finesse des transistors.
Oui, et donc c'est le Moore en question, c'est l'un des fondateurs Intel, c'est lui qui a créé le principe de microprocesseur. Et en fait, le dernier proc d'Intel, bah en fait, il triche en empilant, agrandissant. Déjà, on est allé vraiment très proche des limites physiques.
Alors cette situation, elle ouvre en fait de manière assez sérieuse, non pas sur les mini-mondes, mais sur les nano-mondes. Et là, je vais faire référence à un ouvrage qui est assez intéressant, qui s'appelle « Aujourd'hui, le nano-monde ». Bon, il commence à dater un peu. C'est un ouvrage qui est publié par un collectif qui est pièce et main d'œuvre et qui est basé du côté de l'Isère, si je ne m'abuse. Alors, j'aime bien cet ouvrage parce que c'est un ouvrage assez militant qui propose une vision moins romantique du mini que celle qu'on a évoquée. Bon, alors c'est aussi des gens qui sont, on va dire, militants de gauche pour aller vite et qui n'hésitent pas, pour affirmer leurs propos, à donner des tacles régulièrement au militantisme féministe et queer. Ça, j'ai pas très bien compris pourquoi. Mais néanmoins, c'est quand même assez intéressant, notamment sur tout un propos autour de la nanotechnologie et des stratégies de construction de ce qu'ils appellent l'acceptabilité.
Alors ça, c'est très intéressant, ça peut faire écho à ce que disait non pas Deleuze, mais le linguiste Noam Chomsky dans son ouvrage, bah déjà ancien, de 1988, « La fabrication du consentement », sous-titre de la propagande médiatique en démocratie, où donc Chomsky analysait toutes les stratégies permettant à des sociétés ou à des gouvernements, il n'y a pas de différence dans le livre, de manipuler l'opinion, notamment via des intermédiaires et des médias dominants. Et Chomsky parle par ailleurs du coup de l'importance de faire des autodéfenses intellectuelles, et il dit qu'on devrait même précisément enseigner ça dans les écoles.
Et alors le collectif Pièces et Main d'œuvre ne démérite pas d'une certaine manière par rapport à cette ambition, parce qu'en fait, d'autodéfense intellectuelle, ils proposent dans leur ouvrage de démonter le prétendu processus démocratique ou la consultation citoyenne qui est régulièrement produite à l'endroit des nanotechnologies. Alors, il y aurait une mauvaise diffusion de l'information autour des dangers des nanotechnologies ou des consultations citoyennes bidons. Enfin, tout ça est très bien expliqué dans le livre que je ne peux pas résumer ici. Ils envisagent 2 axes que je trouve assez pertinent de mentionner assez rapidement. Alors, les nanotechnologies, déjà, il y a des enjeux de manipuler la matière au niveau de l'atome. Hein. Donc, ça serait l'idée d'avoir des tout petits robots constructeurs qui manipuleraient la matière atome par atome. Donc là, on est sur des technologies encore relativement expérimentales, mais qui ne sont pas sans danger. Un des dangers qui a été quand même souvent évoqué, c'est d'avoir ces robots qui s'emballent et de manière quasi virale, qui se mettent à démonter la matière atome par atome, mais de manière, on va dire, contaminante. C'est ce qu'on appelle la grey goo, hein, la matière grise. Hein. Et donc ça aura des conséquences.
Oui, ce qui paraît cool, mais en fait, il n'y a plus personne sur Terre.
Voilà. Et puis sinon, il y a quand même des dangers plus lisibles, ou en tout cas des applications qui, elles, sont plus lisibles, ce qu'ils appellent les objets miniaturisés intelligents. Donc ce sont tous ces micro-dispositifs de puces RFID, d'objets pucés, qui colonisent petit à petit nos possessions et nos dispositifs.
Ce que tu dis, c'est que comme toute technologie, il y a des enjeux politiques, et donc la nanopolitique, elle est très importante, parce que dès lors qu'une chose n'est plus visible par des êtres humains, peut-être que du coup, elle ne peut plus faire l'objet de débats politiques, étant donné qu'elle n'est plus publique. On ne la voit pas, on ne peut pas la discuter. Et donc, c'est tout le problème de la physique quantique. À une certaine échelle, il devient totalement impossible de prévoir le comportement de certains éléments, atomes et sous-atomes. Et donc, appliqué au champ de l'informatique, alors là, peut-être ça peut être plus positif. Ça ouvre la voie à ce qu'on appelle des calculateurs quantiques qui, du coup, ne sont plus basés sur des 0 et des 1, mais peuvent prendre beaucoup plus de valeur et donc être potentiellement beaucoup plus puissants. Et j'ai ainsi vu des tentatives de répliquer des calculateurs ou des objets du quotidien à l'échelle atomique, ce que tu évoquais.
Bah, il faut être aussi un petit peu prudent. Alors sur ces questions, la revue Nautilus, pareil, donc ça c'est, on la cite à peu près 3 fois par émission, a publié dans son numéro 29 une série d'articles dédiés aux échelles. Et j'avais été assez interpellée par l'article de Lawrence Krauss sur les Theories of Everything, donc les théories de la totalité. C'est l'idée qu'aucune théorie, que ça soit de, on va dire, newtonienne, quantique, décidément, ne marche à toutes les échelles.
Alors c'est peut-être le moment de revenir sur le Small is Beautiful. En fait, c'est peut-être plus compliqué, mais bon, il faut quand même revenir là-dessus. J'ai vu qu'on devait cette expression à l'économiste Friedrich Schumacher dans un essai du même nom de 73. Et du coup, alors j'ai l'impression que c'est plutôt positif. Sa pensée s'inscrit à la fois chez Keynes et dans la lignée du penseur Ivan Illich, avec une attention portée à l'équilibre des ressources humaines et naturelles, ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être développement durable.
Ouais, mais alors là, attention, parce que tout comme éco ou écologie, il y a une séduction du terme mini, une séduction du terme micro qu'on retrouve à coller à n'importe quoi pour faire jeune, contemporain ou que sais-je. Micro-entreprise, micro-crédit, on revient dans les torts du langage publicitaire. C'est aussi dans la publicité, vous savez, dès qu'un produit est censé bien marcher, on sort des loupes et des microscopes pour vous montrer les radicaux libres en action. Alors, même si mini et micro, ça peut désigner des modèles intéressants, c'est un effet de langage et donc d'image, comme je viens de le montrer, qui n'est pas anodin. Quand on dit micro, en fait, on dit un peu inoffensif.
Bah oui, c'est un peu comme le downsizing. Finalement, on croit que c'est cool. En fait, on licencie peut-être des personnes. C'est ce que dit le chercheur Maurizio Lazzarato dans un essai récent, La fabrique de l'homme endetté, où du coup, l'auteur montre que la notion de dette, finalement, c'est pas quelque chose de négatif pour l'économie capitaliste. Peut-être qu'elle est volontairement produite, et même sans doute qu'elle se situe au cœur de ce projet-là. Et donc, dans tes histoires de micro quelque chose, micro crédit, bah, c'est peut-être pas quelque chose de plus petit, mais peut-être un tout honnêtement beaucoup plus grand, voire délirant. Et peut-être ça fabrique de la maxi dette, ces micro choses.
Oui, micro crédit, maxi dette, effectivement, ça paraît assez cohérent. Moi, je trouve aussi que le mini, c'est souvent le lieu d'une dépolitisation des discours. La figure la plus emblématique de ça, c'est le colibri. On en entend beaucoup parler. Alors, c'est une légende amérindienne qui a été, alors en plus. Doux, parce qu'amérindienne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui aurait été popularisé par Pierre Rabhi, et qui nous dit, voilà, il y a un incendie dans la forêt, les animaux sont désemparés, et seul le colibri vient apporter 3 gouttes d'eau dans son bec, et il dit, je fais ma part, voilà. Je ne peux pas saquer le colibri, je le hais, quoi. Cette espèce de sentiment de bien faire, pour moi, c'est vraiment une image dépolitisée de l'action. Et puis, on retrouve un peu, ça essaime, hein, ces typologies de langage. Il n'y a pas longtemps, je suis allée faire un tour sur l'agence de recherche sur l'énergie, donc Institute for Energy Research, et il nous place cette citation en amorce de son site. Quand quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose est trop gros. Alors oui, sans doute, magnifique citation de Léopold Corps, mais le problème de ça, c'est que par effet miroir, tout ce qui serait petit aurait une supériorité morale, comme le colibri. Ah, si j'en fais un peu, je fais, donc c'est bon.